Il nous faut replacer le texte dans son contexte, non seulement du livre, du Pentateuque, mais également de la révélation tout entière. Soit nous avons ici une page d'histoire d'Israël, soit alors nous avons, à travers ce qui a été lu, un message pour aujourd'hui, 14 février 2021, bien que les choses se soient passées il y a 3000 ans. J'irai donc à l'essentiel. Le livre des Nombres doit son nom à la version grecque des Septante, c'est-à-dire c'était des rabbins qui, au 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ, ont traduit de l'hébreu en grec tout l'Ancien Testament. En effet, le livre des Nombres commence par un recensement, celui de ceux qui sont sortis d'Égypte, et se clôture au chapitre 26 par un autre recensement, qui est celui de ceux qui vont entrer dans la terre promise. Cela ne correspond pas au message du livre, marqué par une forte densité thématique. D'ailleurs, dans le canon juif, le livre s'intitule d'après les premiers mots, au désert. Nous avons donc ici la description du trajet du peuple d'Israël depuis le mont Sinaï jusqu'aux plaines de Moab, juste avant d'entrer dans la terre promise. Si on replace ce passage dans le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de Moïse, nous avons avec la Genèse le livre des commencements. Nous avons la création, le déluge, la dispersion et l'élection avec Abraham. Dans le deuxième livre de l'Exode, nous avons l'annonce de la rédemption. Dans le Lévitique, nous sommes appelés à servir comme sacrificateur. Ceci est tellement vrai que dans 2 Pierre 2 et Apocalypse 1, 6, nous sommes qualifiés de sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Quant au Deutéronome, qui s'intitule en hébreu « Les paroles », nous avons une relecture d'Israël, d'un peuple qui était voyageur et qui va devenir sédentaire. Et quant au livre des Nombres, c'est la marche et la lutte dans le désert. C'est important, parce que l'apôtre Paul reprend dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, différents éléments de ce que nous avons lu pour nous dire ceci, de faire attention parce que nous sommes arrivés à la fin des temps et que ceci doit nous servir d'exemple et d'instruction. Quel est le contexte de l'affaire ? Lorsqu'Israël sortit d'Égypte, sortit avec Israël ce que Nombre 11, 4 appelle un ramassis de gens, donc des gens peu fréquentables et peu recommandables. Je lis le verset 4 du chapitre 11. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. Et au chapitre 14, tous ceux qui ont vu ma gloire et m'ont déjà tenté 10 fois. Le livre des Nombres, c'est une succession de récriminations, de révoltes contre Dieu. Et bien, il fallait faire cesser ces murmures. Ces contestations permanentes, d'où l'errement, ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. La question n'est pas sans importance, parce que nous avons le chapitre 17, mais j'aurais pu lire le chapitre 16, où nous avons la révolte de Dathan à Abiram. Ce qui est en cause, ce n'est pas tellement Moïse et Aaron. Ce qui est en cause, c'est l'autorité de Dieu. D'où la question, comment faire pour cesser les murmures ? Le Seigneur agit ici de façon déroutante et déconcertante. Dieu aurait pu utiliser la manière forte, le bâton de Moïse. Rappelons que le bâton de Moïse était celui qui avait fait trembler l'Égypte. C'est ce même bâton qui avait amené les 10 plaies. C'est encore ce même bâton avec lequel Moïse ouvrit la mer et la referma sur l'armée égyptienne. C'est toujours le même bâton avec lequel il frappa 2 fois le rocher. C'est important parce que, en fait, à cause de cela, Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Dieu lui avait dit de parler au rocher, et non pas de le frapper. Et c'est ce même bâton avec lequel Moïse fit subir à Amalek une défaite complète. Le bâton de Moïse était le signe de la puissance et de l'autorité. Le bâton d'Aaron était le bâton de la grâce qui vivifie. Le bâton de Moïse pouvait ôter les murmurateurs, comme il l'a fait au chapitre 16. Mais seule la grâce pouvait faire cesser les murmures. Le bâton donc de Moïse, d'Aaron, pardon, était représenté la grâce de Dieu afin de répondre aux besoins d'Israël. Quelle est la signification spirituelle de cela? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est un récit d'il y a 3000 ans? Ou est-ce qu'aujourd'hui encore, je peux trouver enseignement, encouragement pour ma marche quotidienne? Nous devons apprendre à nous connaître. Le temple de Delphes en Grèce portait cette inscription sur le fronton. Connais-toi toi-même. Ce bâton mort et sec était la vraie image du peuple d'Israël ainsi que de chacun d'entre nous. Nous n'avons ni sève ni vie à moins de nous tourner vers le Seigneur et de le suivre. Le bois sec et mort est donc l'expression du cœur naturel. Le cœur naturel peut avoir de grandes qualités, mais aux yeux de Dieu, c'est zéro, ça ne compte pas. Il nous faut donc passer par la nouvelle naissance pour trouver notre place dans le corps de Christ. Quel est le but de l'expérience? Il est nécessaire à un moment donné dans notre vie où Dieu doit nous enfermer, comme il l'a fait avec les 12 bâtons. Nous passons par des expériences parfois douloureuses, qui durent. C'est ça qui est terrible, c'est la longévité des choses. Dieu nous enferme dans une sorte de nuit noire, comme il l'a fait avec les 12 bâtons. Nous avons conscience que notre marche devrait être plus assurée et non pas marquée par d'incessants hauts et bas. Dans cette expérience, vous ne pouvez rien pour moi, comme je peux rien pour vous. Dieu nous prend et nous place dans cette nuit noire pour nous parler. Nous avons jusqu'à présent pu bénéficier de la communion fraternelle, de l'aide des uns et des autres, de la prière de l'Église. Mais il y a des moments dans l'expérience où Dieu nous prend, nous enferme dans la nuit noire et veut nous parler. Et lorsque Dieu nous enferme dans une telle expérience, ce n'est pas pour nous faire mal, mais pour ouvrir nos yeux et nous amener à une meilleure compréhension de son plan nous concernant. Nous ne pouvons pas jouer à cache-cache avec Dieu toute notre vie. Il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un dépose les armes. Et Dieu veut que je lui donne une réponse. Es-tu d'accord ou pas d'accord? Je suis un homme libre. Et Dieu ne violentera jamais la conscience d'un homme libre. J'accepte ou je refuse. Je dois donc reconnaître qu'à un moment donné, je suis sans vie, incapable de faire le bien, et que je dois me soumettre à l'autorité de Christ, afin que le Saint-Esprit ait toute latitude pour nous façonner et nous transformer. Un exemple, c'est Jacob. Tout le monde connaît la vie de Jacob. Au chapitre 32 de la Genèse, Dieu le prend et va le prendre et lui parler. Et nous passons par une expérience semblable, avec peut-être moins d'intensité, mais le but est le même, c'est de nous parler et de nous amener à reconnaître l'autorité de Christ. Jacob était un homme On n'aime pas beaucoup Jacob. Il y a beaucoup de Jacob en nous. Il était quelque peu tordu. Il aimait faire des plans. Il aimait tromper. D'ailleurs, c'était son nom, Jacob. Mais il nous est dit que dans Genèse 32, que Jacob demeura seul. Il allait à la rencontre de son frère Ésaü. Il avait peur parce qu'il avait joué des tours à son frère. Il met à l'abri femme et enfant et il se retrouve seul au torrent du Jabbok. Et là, il est dit qu'il lutta avec Dieu, avec l'ange. Et Osée, chapitre 10, nous dit qu'il pleura. Dans ce type d'expérience, Dieu veut toucher nos points forts de notre personnalité. Ce qui était nos points forts deviennent des points faibles. C'est exactement ce qui arriva à Jacob. Voilà un homme qui fut touché physiquement à l'emboîture de la hanche. Il ne pouvait plus marcher, il boitait. Il ne pouvait plus courir comme il l'avait jusqu'à présent. Il était à la fois marqué physiquement, mais également spirituellement. La grande leçon de tout ça, c'est que Dieu veille. Il veille sur chacun d'entre nous. Nous sommes sauvés non pas pour nous-mêmes, mais nous sommes sauvés pour servir les autres. Dans le corps de Christ, chacun a reçu au moins un don. Et il faut donc que ces dons soient mis à disposition de l'Église pour sa croissance et pour son extension, son expansion. Dieu veille. Dans 1 Samuel 2, verset 9, il est dit que Dieu garde les pas de ses bien-aimés. Rien ne lui échappe. Il nous connaît parfaitement. Il sait ce que nous faisons, ce que nous pensons. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons soumis à son autorité. Il veille. Et ceci nous ramène au prophète Jérémie, au chapitre 1er, où Dieu dit à Jérémie, « Que vois-tu, Jérémie ?» Et Jérémie répond, « Je vois une branche d'amandier. » Tu as raison, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole. D'ailleurs, l'amandier est le premier arbre à se réveiller au printemps et fleurir au printemps. D'où en hébreu le nom de veilleur. L'amandier, c'est un veilleur. Et Dieu veille sur sa parole. Sa parole qui court avec vitesse, selon le psaume 147. Sa parole qui ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi il l'a donné et envoyé. Ésaïe 55. Dieu est attentif à chacun de nos pas. Nous ne le mesurons pas toujours à sa juste valeur, mais le Seigneur veille sur chacun d'entre nous. Il faut croire ce que nous croyons. Croire que le Seigneur nous parle. Quand je lis sa parole, c'est lui qui me parle. C'est ainsi que le Saint-Esprit prend de Christ et me le donne pour que je comprenne et que j'apprenne à vivre et à marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire de ménager chaque jour un temps de lecture de la parole, afin d'être fortifié et encouragé par le Saint-Esprit. Dieu répond à nos prières, il est le Dieu de l'Amen. Et le mot hébreu « Amen » contient les idées de fermeté, de fidélité et de vérité. Dieu ne nous abandonne pas. Psaume 139, le psalmiste dit « N'abandonne pas l'ouvrage de tes mains ». Et Paul dit dans les Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son avènement. » Ainsi, au travers de cet épisode, il s'agit de tirer l'enseignement qui nous est nécessaire pour croître et grandir. C'est pas accidentel tout ça. C'est que la parole a consigné, le Saint-Esprit a consigné tout cela pour que nous soyons vigilants, prudents, avisés, conséquents avec nous-mêmes et que nous marchions en nouveauté de vie. Le but de Dieu, c'est de nous amener à la maturité. Et je ne peux pas arriver à la maturité sans vous, comme vous ne pouvez pas arriver sans moi. Nous sommes solidaires les uns des autres et l'Église ne peut fonctionner et marcher que si nous mettons en pratique ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. Ainsi que le Seigneur nous aide à marcher fidèlement et conformément à ce qu'il nous a dit et donné.